Je suis un musicien bâtard, qui joue beau, qui joue moche, qui joue joli, qui joue masculin, qui joue féminin, qui joue de la musique, qui joue de tous les sons, puissants, doux, des sons jamais entendus. Mingus, selon ses propres mots. Il était un virtuose de la contrebasse, mais il est tout autant reconnu aujourd'hui pour son talent de compositeur. Mingus déversait toute sa personnalité dans son art, sa musique reflétant, comme il le dit si bien lui-même, le large éventail de son caractère dans tous ses extrêmes, du plus violent au plus doux, du plus tumultueux au plus lyrique, du plus douloureux au plus extasié. Sa musique est celle d'un homme en proie à de violents changements d'humeur, pouvant vaciller entre des moments d'exubérance et de dépression, d'euphorie et de colère incontrôlable. Comme le disait son ami, le compositeur et historien Günther Schuller, il était parfois un Jekyll et Hyde, un ange et un démon. Je m'appelle Luxi Bright et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. J'ai toujours voulu être un compositeur spontané, écrit Mingus dans les notes d'accompagnement de son album de 1972, Let My Children Hear Music, dans lequel il s'aventure dans l'univers du third stream, une synthèse entre jazz et musique classique. Ce mariage-là, il l'avait déjà exploré presque 10 ans plus tôt sur son album The Black Saint and the Sinner Lady, sa première œuvre orchestrale majeure. Mingus avait reçu une formation musicale classique, étudiant notamment la composition avec Lloyd Rees, un trompettiste et arrangeur très convoité. Il était familier avec le travail de compositeurs contemporains comme Béla Bartok, Igor Stravinsky et Arnold Schoenberg, et leur influence est audible dans certaines de ses premières compositions. En 1947, alors qu'il fait partie du groupe de Lionel Hampton, il compose et enregistre Mingus Fingers, un thème complexe et souvent atonal qu'il concevait comme une sorte de concerto pour basse et orchestre jazz. Hampton et ses musiciens sont perplexes. Dès l'été 1953, il organise avec son acolyte Max Roach ce qu'il appelle le Jazz Workshop. L'idée lui était venue au début des années 40 lorsqu'il étudiait au City College de Los Angeles et assistait à un atelier classique dans lequel les musiciens échangeaient des idées et jouaient leurs nouvelles compositions. Dans un premier temps, il met en place un atelier de jazz tenu les vendredis soirs au Putnam Central Club de Brooklyn. Plus tard, Mingus emploiera le terme « jazz workshop » pour désigner ses différents groupes, dans lesquels il s'entoure de beaucoup de jeunes talents de l'époque, pour qui il devenait une sorte de mentor. « C'est avec le Jazz Workshop que Mingus commence réellement à mûrir sa vision musicale et expérimenter avec la forme. Il explore de nouvelles approches à l'écriture en élargissant le champ d'improvisation à travers ce qu'il appelait des formes étendues. De longues séquences construites autour de structures harmoniques simples ou encore des modes et dans lesquelles les solistes ont beaucoup de liberté. Il joue sur des variations obliques de tempo et de pulsation et des constructions harmoniques atypiques. Il expérimente aussi avec la structure même de l'improvisation, mettant l'emphase notamment sur l'improvisation de groupe. Dans cette mesure, on identifie l'influence sur sa musique du jazz de la Nouvelle-Orléans d'une part, et de l'autre, des traditions du chant rituel de l'église noire dans lesquelles il est plongé très tôt, accompagnant régulièrement sa mère au service. C'est à l'église qu'il entend des improvisations vocales gorgées de blues, des chants collectifs, des questions-réponses vocales au vibrato débridé, accompagnées de battements de mains et de gémissements d'extase. Tous ces éléments se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans sa musique. Ces nouvelles approches commencent véritablement à prendre forme pour la première fois sur son album Pithecanthropus Erectus, sorti en 1956. Sur le morceau titre que l'on écoute, figurent des passages où tout le groupe improvise de manière libre. A noter que cet album prédate les premiers enregistrements d'Ornette Coleman de plus de 2 ans, et sera d'ailleurs crucial dans le développement de l'esthétique free dans les années qui suivent. C'est aussi lors de l'enregistrement de cet album que Mingus commence à enseigner ses arrangements à ses musiciens de manière purement orale. Il ne prend plus la position classique du chef d'orchestre, mais mène son groupe en criant et en haranguant de sa contrebasse. Dans les notes de l'album, il écrit « Toute ma conception avec ce jazz workshop ne comprend rien d'écrit. J'écris mes morceaux, mais juste sur du papier mental. Puis j'expose la composition partie par partie aux musiciens. Je leur joue la structure globale au piano afin qu'ils connaissent mon interprétation et mon sentiment, la gamme et les progressions d'accords. Le style de chacun est pris en considération. Ils choisissent leurs propres notes et les jouent selon leur style, sauf là où j'indique une ambiance particulière. Comme ça, je maintiens ma saveur compositionnelle tout en donnant aux musiciens plus de liberté. » On comprend bien ici l'équilibre que Mingus recherche entre spontanéité et orchestration disciplinée. L'expression paradoxale « compositeur spontané » qu'il s'attribue prend alors tout son sens. Les frontières entre composition et improvisation deviennent floues. Mingus encourageait beaucoup l'expression libre chez ses musiciens et comptait sur leur connaissance intime de leur instrument. Le saxophoniste Youssef Latif se souvient d'une fois où Mingus, au lieu de lui donner une série d'accords autour desquels construire son solo, lui dessina un cercueil. Et c'était là la substance avec laquelle il devait improviser. Il laisse donc la place aux musiciens d'interpréter et de s'approprier ses idées musicales, mais toujours au service d'une vision globale, cherchant souvent à canaliser son groupe vers de frénétiques passages d'improvisation collective, extatiques et parfois cacophoniques, agencés par des riffs superposés. On écoute Wednesday Night Prayer Meeting, qui illustre bien beaucoup des dynamiques de groupe que privilégiait Mingus, et surtout, son affinité pour la musique rituelle de l'Église. Selon de nombreux récits de musiciens passés par le workshop, Mingus était extrêmement exigeant et détestait la complaisance. Il lui arrivait souvent, s'il trouvait que ses musiciens jouaient mal ou de manière simpliste, d'essayer de les faire trébucher en changeant les tempos et les mesures. Cy Johnson se souvient, il pouvait changer soudainement de 4 à 6 temps dans la mesure, et ce serait comme glisser sur une plaque de glace. Tu tombes sur tes fesses, mais au moins tu réfléchis. Il ne voyait pas son rôle comme celui d'accompagner le soliste, mais plutôt de le secouer. Et les secouer, il lui arrivait de le faire littéralement. Souvent tyrannique dans sa gestion du groupe, il pouvait facilement perdre le contrôle dans de violents éclats de colère et d'agression physique. Cette fameuse colère, nous en reparlerons dans un prochain épisode. Parmi les différentes itérations du Jazz Workshop, plusieurs sont entrées dans la légende. Mingus commence à collaborer avec le multi-instrumentiste Eric Dolphy à partir de 1960. Et en 1964, forme avec lui un de ses groupes les plus célèbres, avec Danny Richmond à la batterie, Clifford Jordan au saxophone, Johnny Coles à la trompette et Jackie Billard au piano. C'est avec ce groupe qu'il fera sa célèbre tournée en Europe, immortalisée dans une série d'albums live d'exception. La même année, Dolphy meurt soudainement à l'âge de 36 ans. S'ensuit une période relativement creuse et reculée pour Mingus, marquée par des épisodes de forte dépression et des soucis financiers. Le début des années 70 marque une certaine relance créative, il reforme un nouveau workshop avec des artistes comme George Adams et Don Pullen. Mais en 1977, il est diagnostiqué avec la maladie de Charcot, qui le laisse partiellement paralysé. Il meurt le 5 janvier 1979. Ce n'est qu'après sa mort que l'on découvre dans son appartement ce qui est incontestablement sa composition la plus ambitieuse, si ce n'est seulement en termes d'échelle. C'est une œuvre orchestrale de plus de 4000 mesures qu'il a composée tout au long de sa vie. Conscient qu'il n'allait jamais la jouer de son vivant, il avait déclaré que cette composition était écrite pour son tombeau. Elle fut interprétée pour la première fois en 1989 par un orchestre de 30 musiciens. Dirigé par Gunther Schuller, qui avait aussi fait tout le travail d'édition et de réécriture nécessaire en amont. Entendu pour la première fois 10 ans après sa mort, Mingus avait adéquatement nommé cette colossale œuvre « Épitaphe ». Thank you.
Thank you.